Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Bernard Roch, qui est pharmacien, docteur en sciences physiques, professeur à l'Université René Descartes, Paris 5, et directeur du laboratoire de pharmacochimie moléculaire et structurale, ce qui est une unité associée à l'INSERM et au CNRS. La majeure partie du travail de recherche du laboratoire du professeur Bernard Roch a été consacrée aux mécanismes de régulation de la transmission des peptidergiques. Il est membre aussi de l'Académie des sciences. Il a publié environ 500 articles, seul ou avec son laboratoire, et un ouvrage que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, qui s'appelle « La dangerosité des drogues », publié chez Odile Jacob en 1998. Je lui laisse donc la parole.
Merci beaucoup. D'abord, c'est une surprise, parce qu'en général, on applaudit après. Là, on applaudit avant, ce qui est quand même assez rare. Je vais donc essayer de vous parler de toxicomanie, qui est évidemment un sujet extrêmement vaste. Alors, d'abord, il faut dire que dans les sociétés modernes, le terme de toxicomanie est généralement associé à une sorte d'insécurité, de danger, qui vient du fait qu'on pense que l'absorption de substances interdites produit effectivement des modifications du comportement, et que ces modifications du comportement peuvent être dangereuses à la fois pour l'individu lui-même et interindividuel, c'est-à-dire pour la société. Alors on verra que c'est vrai, mais je pense que la toxicomanie, ça va plus loin, parce que dans toxicomanie, il y a toxique et il y a manie, et dans manie, il y a tous les comportements compulsifs qui se font sans produit, les psychiatres le savent bien, la boulimie par exemple, ou les comportements excessifs de jeu, sont des comportements compulsifs, sont des manies qu'on associe assez volontiers à la toxicomanie sur le plan, par exemple, du traitement. Donc il ne faut pas restreindre la toxicomanie à l'utilisation des produits. Alors, est-ce que la toxicomanie est nouvelle? Est-ce que l'utilisation des drogues est nouvelle? Certainement pas. Et vous allez voir sur la première diapositive, je pense que c'est moi qui l'envoie. Voilà, sur cette première diapositive, j'ai rappelé que depuis la plus haute antiquité, bien entendu, les hommes utilisaient des substances, pas seulement pour se nourrir, mais également pour ressentir des états passagers d'euphorie, de confort et une impression de bien-être subjectif. Et il est tout à fait remarquable de constater que parmi ces substances, on a trouvé, bien sûr, très rapidement des breuvages alcooliques, et évidemment de nombreuses plantes, et parmi ces plantes, l'opium, dont on sait qu'il est utilisé depuis au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Or, finalement, les choses ont changé, bien sûr, parce que maintenant, il y a les drogues de synthèse, je vous en reparlerai, mais il n'empêche qu'on utilise toujours, bien sûr, l'alcool et l'opium, nous en reparlerons également tout à l'heure. Alors, il y a une certaine déviation, si je puis dire, dans le mot « drogue », et c'est pour ça que je préfère souvent utiliser le mot « drogue psychoactive » ou plutôt « composé psychoactif ». Parce que vous voyez ici, il est assez curieux de constater que « drogue » en grec, c'est « pharmakon ». Et je suis incapable de mettre l'accent parce que j'ai jamais fait le grec. Mais « pharmakos », c'est « bouc émissaire ». Et c'est vrai qu'on a très souvent associé la drogue comme une sorte de bouc émissaire pour cacher un certain nombre de tares de nos sociétés, qui sont la perte du lien, la pauvreté, l'excès d'un certain nombre de choses. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la diapositive suivante vous montre que, contrairement à ce qu'on croit souvent, beaucoup de gens sont capables de gérer l'utilisation d'un certain nombre de substances dites toxiques, dites drogues. Alors j'ai pris à dessein cette diapositive qui représente un vieux monsieur chinois qui probablement consomme régulièrement tous les jours, mais de façon tout à fait modérée et absolument sans excès sa pipe d'opium, et manifestement il n'a pas l'air de se porter très mal. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut consommer de l'opium, mais ça veut dire que la gestion, et on y viendra tout à l'heure, il ne faut pas confondre l'abus, la dépendance et la consommation festive. Il y a eu et il y aura toujours une consommation festive de drogue, et je pense qu'il faut le savoir. Alors, l'autre idée reçue, c'est que les drogues... Oui, je veux bien que vous... Les drogues sont des substances un peu mystérieuses qui s'approchent plus de la sorcellerie, si je puis dire, parce que pendant très longtemps, on n'a pas su très bien comment elles fonctionnaient. En fait, les drogues agissent tout simplement exactement comme les ligands endogènes. Je veux dire par là qu'une drogue a automatiquement, agit bien sûr sur le cerveau, mais dans le cerveau, il existe une cible qui l'accueille, et cette cible accueille naturellement, bien entendu, ce qu'on appelle un ligand, c'est-à-dire une substance, un effecteur endogène. Alors je vais prendre un exemple très simple, qui est celui de l'héroïne. L'héroïne, c'est un dérivé de la morphine, dérivé diacétylé de la morphine, qui passe très, très rapidement dans le cerveau. Eh bien, la substance qui, dans le cerveau, correspond à la morphine, ce sont deux petites molécules qu'on verra tout à l'heure, qu'on appelle les encéphalines, et qui se lient donc à des cibles, qu'on appelle des récepteurs, qui sont de type mu et delta. Alors, on pourrait continuer comme ça pour toutes les substances. Par exemple, si je prends la cocaïne, dont on reparlera également, eh bien, elle a comme cible le transporteur de la dopamine qui est une petite molécule extrêmement importante parce que c'est la molécule du plaisir. Alors, il est également très important de constater qu'un certain nombre de ces drogues, en fait, de ces substances, soit psychostimulantes, soit euphorisantes, ont été utilisées et sont toujours utilisées à des fins pharmaceutiques. Par exemple, la morphine, bien entendu, est le plus puissant des analgésiques actuels. Et il ne faut surtout pas interrompre l'utilisation de la morphine. Je dois dire que même en France, il faudrait accélérer l'utilisation de la morphine parce que on n'a jamais réellement démontré qu'il y avait un risque de toxicomanie venant d'utilisation de la morphine, surtout dans les phases terminales, malheureusement, chez les patients mourants. Donc, ne jamais oublier qu'il n'y a pas de mystère dans l'action des drogues. Ce que font les drogues, c'est simplement remplacer les ligands endogènes, les effecteurs endogènes, et surstimuler les cils. Et c'est cette surstimulation qui finit par donner la toxicomanie dont je vais parler maintenant. Je crois que vous allez pouvoir me les envoyer, ça va être plus simple. Merci. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au fond, le vieux Chinois qui fumait sur sa pipe, ce qu'il cherchait, c'était le plaisir. Et le dénominateur commun à toutes les substances psychoactives, dites drogues, c'est qu'elles sont capables d'engendrer du plaisir par un mécanisme moléculaire dont on reparlera tout à l'heure. Alors, il faut évidemment faire très attention à cette gradation. Vous voyez, ici, j'ai pris à dessin, c'est le cas de le dire, ce dessin qui a été fait par un illustrateur belge au cours d'une émission à Lille, et j'ai trouvé ça absolument remarquable. Ce qui différencie la consommation récréationnelle, donc festive, celle que nous faisons tous les jours, pour ceux qui aiment le bon vin, par exemple, et qui consiste, vous le savez, à boire un verre de verre, pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est une substance qui est très agréable, qui renforce le lien, qui est emphatique, comme on dit. Et puis ensuite, alors on passe à l'abus, c'est-à-dire que dans ce cas-là, et ce schéma le représente bien, le personnage ici, vous voyez le verre au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'il pense que tous les jours, il va falloir qu'il consomme cette substance qui est ici le vin, et cette substance va modifier un tout petit peu son comportement, et par exemple, il peut avoir un comportement dangereux en voiture, par exemple. Puis ensuite, il y a la dépendance, et alors c'est parfaitement illustré à nouveau par ce dessinateur belge, parce que dans ce cas-là, il a mis carrément le consommateur à l'intérieur du verre. C'est-à-dire que ce consommateur, il ne pense plus qu'à ça. Toute sa vie est tournée vers la recherche de la substance. Alors, j'ai pris l'alcool ici, mais l'héroïne, c'est évidemment la même chose. Donc, il a ce qu'on appelle une conduite compulsive, c'est-à-dire que sans arrêt, il cherche absolument à trouver la drogue pour trouver le plaisir dont on va reparler tout à l'heure. Il est donc devenu dépendant de cette substance. Diapositive suivante, merci. Donc, c'est un simple résumé de ce que je viens de dire. La dépendance est un besoin compulsif de consommation d'une substance donc psychoactive, drogue, et ceci en dépit des conséquences néfastes que connaît très bien le consommateur. Mais il ne peut pas s'empêcher de consommer. C'est pour ça qu'il faut avoir la plus grande tendresse, je dirais presque, pour les gens qui sont dépendants de la drogue, car ce sont vraiment des gens qui souffrent énormément. Alors, cette dépendance, elle s'installe graduellement, donc évidemment, en fonction d'une consommation qui est d'abord chronique, puis ensuite, la personne devient dépendante de cette drogue. Alors, la dépendance serait, et je dis bien serait, liée à des phénomènes d'adaptation cellulaire, j'en dirai un mot tout à l'heure, car finalement, on ne sait pas grand-chose, on travaille énormément dans ce domaine, il y a énormément de travaux qui se font dans ce domaine, mais on ne sait pas encore tellement de choses. Et ce qu'on sait encore moins, c'est le problème des rechutes, c'est-à-dire que finalement, quand on a consommé très longtemps et qu'on est désintoxiqué, par exemple de l'alcool ou de l'héroïne, eh bien si par malheur, je dirais, on reprend un verre d'alcool ou on reprend une dose d'héroïne, eh bien on risque de retomber effectivement dans la dépendance à cette drogue. Ça veut dire qu'il y a un effet de rémanence qui est extraordinairement prolongé et on ne connaît pas très bien les mécanismes moléculaires qui sous-tendent cette rémanence longue. Merci. Alors, je ne vais pas vous abreuver de statistiques et de chiffres, mais tout de même, on constate qu'il y a effectivement un certain nombre de drogues qui sont utilisées de plus en plus. Et alors, j'ai pris à dessein le problème des lycéens, donc de 15 à 19 ans. Pourquoi ? Parce qu'on estime que la prise de drogue est surtout dangereuse entre, disons, 10 ans et 20 ans, 20-22 ans. Parce qu'après, la plupart des gens arrivent à se désintoxiquer plus facilement. Alors que plus la prise de drogue est prise tôt, plus la dépendance interviendra rapidement et plus il sera difficile de désintoxiquer la personne. Donc c'est donc à dessein que j'ai pris ces chiffres qui sortent du source baromètre santé jeunesse. Et vous voyez que, bien entendu, un lycéen sur trois consomme du cannabis, ça tout le monde le sait. Il n'y a du reste pas de tendance ni à l'augmentation ni à la diminution. La cocaïne est en augmentation. L'héroïne, par contre, est en baisse, et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. L'ecstasy, malheureusement, est en hausse. Tous les psychostimulants sont en hausse. L'alcool chez les jeunes augmente de manière assez importante, vous voyez, 21% de réguliers, je ne parle pas des occasionnels qui sont moins intéressants entre guillemets, mais les réguliers augmentent de manière assez importante, et le tabac a augmenté, et là je dois dire que les jeunes filles sont un peu responsables de cette augmentation de la consommation de tabac. Et enfin, la polyconsommation est extrêmement importante. On peut dire que dans cette société de consommation, consommer un seul produit, ça fait ringard, tandis qu'en consommer deux ou trois, c'est vraiment beaucoup mieux. Diapositive suivante. Alors, plaisir. Je crois qu'il ne faut jamais oublier ce terme-là, qui est trop souvent oublié. Quand on parle de drogue et quand on parle de substances psychoactives, si on utilise des substances psychoactives, c'est parce qu'elles produisent un effet de plaisir. Et cet effet de plaisir peut être un effet qui surmonte, par exemple, une anhédonie, c'est-à-dire un sentiment d'anxiété, de tension intérieure. Alors, pourquoi existe-t-il, au fond, un système de plaisir dans l'organisme ? Bien, ce système de plaisir, vous voyez, il est représenté ici par deux, c'est évidemment extrêmement schématique, par deux systèmes endogènes, le système des petits peptides opioïdes dont je parlais tout à l'heure, et puis un système de contraction, de contre-action en deux mots, qui est également occupé par deux ou plusieurs peptides, du reste, dont la cholécystokinine et la dynorphine. Et le dénominateur commun, c'est la dopamine. En fait, la substance qui est réellement hédonique, qui donne réellement du plaisir, c'est la dopamine, qui est une toute petite molécule dont je vais vous parler maintenant abondamment. Alors, ces encéphalines endogènes, ces opioïdes endogènes, qui jouent un rôle absolument considérable dans nos adaptations, les voilà représentés ici, c'est des pentapeptides à peptides qui ont du reste un temps de vie extrêmement limité puisqu'ils sont dégradés par des enzymes gloutons là, que vous voyez représentés ici. Alors pourquoi y a-t-il un système de récompense, comme on me dit, un système de plaisir ? Eh bien parce que ce système de plaisir a évidemment une fonction vitale. La fonction vitale, c'est que c'est le maintien de l'espèce, c'est-à-dire que la sexualité, la reproduction est associée à la libération de ces substances qui sont donc des encéphalines et qui engendrent le plaisir par l'intermédiaire de la dopamine, par libération de dopamine. Mais c'est aussi la recherche de nourriture. La nourriture également sécrète des encéphalines, fait sécréter des encéphalines. Et puis, c'est la défense contre les prédateurs. Et là, il y a une sorte d'équilibre permanent entre les systèmes de sédation qui vont jusqu'à l'euphorie. Et puis, quand l'euphorie est atteinte, naturellement, pour l'instant, je ne parle pas de drogue. Il n'y a pas de drogue dans ce système-là. Hein. C'est un système de régulation endogène. Donc, il y a un système de plaisir qui va jusqu'à l'euphorie. Puis quand on atteint l'euphorie, il y a le contre-système qui se met en action. Et lui, il va augmenter la vigilance. Et si ça va trop loin, il va entraîner de l'anxiété. Et à ce moment-là, c'est l'autre qui se met en route. Et ce qu'on pense maintenant, c'est que dans la toxicomanie, il y a très souvent un déséquilibre entre ces deux systèmes qui attire la personne vers la drogue pour surmonter cet état de déséquilibre. Merci beaucoup. Alors, comment a-t-on pu démontrer ça absolument formellement par une expérience qui est très jolie et que je vais essayer de vous détailler, qui est finalement assez simple, qui a été faite en 1996 aux États-Unis par M. Koenig et ses collaborateurs, et qui est la suivante. On peut faire maintenant des lignées de souris qu'on appelle des lignées transgéniques, le terme n'est pas très bon du reste, qui sont des lignées dans lesquelles, par manipulation génétique, on a enlevé le gène qui code pour une substance particulière. Dans ce cas-là, c'était le gène qui codait pour ces fameux peptides opioïdes endogènes, c'est-à-dire ces encéphalines. Donc la souris en question n'avait plus du tout d'encéphaline. Donc elle n'avait plus d'encéphaline dans son cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand on étudie cette souris et que, par exemple, on la met sur une plaque chauffée? Quand on la met sur une plaque chauffée, c'est un test où on teste les analgésiques. Elle saute au bout d'un certain temps, bien sûr, parce qu'elle a chaud aux pattes, donc elle essaye d'échapper comme nous quand on court dans le sable. Eh bien, il y a un certain seuil, vous voyez, qu'elle met un certain temps. Hein. Ici, c'est des secondes. Elle met en gros 90 secondes pour commencer à sauter. Eh bien, vous voyez que le moins-moins ici, c'est la souris qui n'a plus ses opioïdes endogènes. Eh bien, évidemment, elle saute plus tôt parce qu'elle n'a pas de morphine endogène. Comme elle n'a pas de morphine endogène, ben évidemment, elle sent la douleur plus tôt, plus vite, et elle saute plus vite. Mais le plus intéressant, c'est probablement ces deux séries d'expériences. Dans cette série d'expériences, j'ai commenté simplement celle-ci, c'est ce qu'on appelle le HOMAS, qui teste l'anxiété d'un animal. Le HOMAS, c'est très simple, c'est un cercle, et dans ce cercle, vous avez une partie, la moitié qui est couverte, une sorte de tunnel, et l'autre partie qui est ouverte. Alors, en général, la souris se réfugie plus facilement dans la partie fermée parce qu'elle est un peu anxieuse. Naturellement, elle ne va pas trop dans la partie illuminée. Mais vous voyez qu'ici, elle y va quand même relativement. Elle occupe, vous voyez ici, 30% des parties ouvertes. Hein, on laisse tourner la souris, on compte un certain temps, 30% de la partie ouverte, alors que, évidemment, ça baisse très singulièrement quand il n'y a pas d'encéphaline. Ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que la souris est devenue un peu anxieuse. C'est normal puisqu'elle n'a plus les encéphalines, donc le contre-action, elle lui donne un peu d'anxiété. Et ce qui est également intéressant, c'est cette série d'expériences. Vous voyez que cette souris est également très agressive. C'est-à-dire que quand on lui met un congénère dans la cage, on la met toute seule dans sa cage, puis on lui met un congénère, donc une autre souris, eh bien, elle saute sur la souris immédiatement. C'est-à-dire que sa violence intérieure est due en fait à cette absence de récompense, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, la notion de bonheur, de plaisir et de tension intérieure qu'il faut quelquefois dominer par la drogue. Diapositive suivante. Alors, je vous ai parlé donc de ce fameux système dopaminergique. Donc la dopamine, c'est cette petite substance, je ne vous donne pas la formule, ça n'a pas une grande importance, qui est sécrétée à la fois dans le cortex préfrontal, ici, et puis ici, dans une structure particulière qui s'appelle le noyau accumbens, qui est du reste séparé en deux parties. Alors je ne vous parlerai pas d'autres projections qui sont très importantes, qu'on retrouve par exemple dans certaines maladies comme la maladie de Parkinson, mais je vous parlais simplement de cet axe qui est l'axe hédonique, qui est donc la partie qui activait les neurones ici, les cellules se trouvent dans cette structure qui est l'aire tegmentale ventrale et qui projette ici soit sur le cortex préfrontal, soit sur le noyau accumbens. Eh bien, si on implante ici une électrode dans le cerveau de cette souris ou de ce rat, ici il s'agit d'un rat, si on implante ici une électrode et qu'on fait une stimulation électrique. Et du reste, ce genre de stimulation a été faite par des neurochirurgiens chez l'homme également, il y a très longtemps, quand on faisait beaucoup d'expériences de neurochirurgie, enfin des expériences, mais disons de la neurochirurgie opératoire, eh bien, on activait quelquefois cette voie hédonique chez l'homme et on obtenait exactement les mêmes résultats. Alors, quels sont les résultats? Imaginez, j'implante ici une électrode et je laisse le rat choisir la possibilité d'activer ou de ne pas activer par un système de pédale l'activation de cette voie hédonique, de cette voie de plaisir. La diapositive suivante, merci beaucoup, montre clairement ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le rat que vous voyez ici a donc le choix d'appuyer sur cette pédale et chaque fois qu'il appuie sur cette pédale, il envoie un courant qui stimule la voie hédonique. Ben, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui se passe. Hein. Vous voyez qu'au fur et à mesure des jours, il appuie de plus en plus. Le nombre d'appuis devient absolument considérable, tout simplement parce qu'à chaque fois, il a une sensation de plaisir énorme. Et il finit du reste par se détruire, littéralement le cerveau, à appuyer sans arrêt sur cette pédale qui lui envoie une décharge et qui active la voie hédonique. Et ceci rappelle tout de même que chez les Roinemann, par exemple, les Roinemann décrivent le rush comme une sensation orgasmique, c'est-à-dire une sensation extrêmement forte de plaisir qui est donnée par l'activation de ce système. Positive suivante, merci. Alors, il existe des quantités de modèles animaux d'études des phénomènes de dépendance aux drogues, mais celui qui est tout à fait remarquable et qui a permis d'unifier un petit peu le mécanisme d'action de toutes les drogues, c'est probablement celui-ci, qui est ce qu'on appelle la microdialyse. Vous voyez qu'ici, ce rat a été implanté dans une région bien particulière du cerveau avec une petite sonde. Évidemment, elle est exagérée, elle est beaucoup plus fine que ça, elle est même extrêmement fine. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que cette petite sonde est reliée à un système de pompe et donc en permanence, on peut mesurer la quantité de substances produites dans une région particulière du cerveau. Par exemple, on pourra doser la dopamine dans le noyau accumbens dont je parlais tout à l'heure, qui est donc cette voie de plaisir. Alors, il y a également des tests qui permettent de savoir si une substance est capable de donner une dépendance. Comment ? Ben, c'est très simple. Vous voyez qu'ici, on a un système qu'on appelle système d'auto-administration. Le rat ici, cette fois-ci, c'est un peu le même rat que tout à l'heure, mais au lieu de se stimuler électriquement, il a ici un petit réservoir, et ce réservoir est capable de lui délivrer, chaque fois qu'il appuie sur la pédale, une certaine dose d'un produit qui peut être, par exemple, l'héroïne. Évidemment, si c'est de l'héroïne, il va appuyer très fréquemment. Si c'est du sérum physiologique, de l'eau, ben, il appuiera une fois ou deux, puis il s'arrêtera parce que ça ne lui fait aucun effet. Enfin, ce système, qui était également très, très astucieux, très joli, est ce qu'on appelle le test de préférence de place, qui est très simple à expliquer. Vous voyez, ici, c'est une boîte avec, en fait, deux compartiments. Le compartiment central est trop grand. Et le rat, ici, ou la souris, se promène librement pendant un ou deux jours. Il explore, en fait, l'animal explore cet espace. Et puis, au bout du troisième jour, on commence alternativement, du 3, 4, 5, 6, etc., à lui administrer, par exemple, une drogue ici et du sérum physiologique ici. Puis à la fin, le 11e jour, on enlève la barrière ici. Chaque fois qu'on administrait, bien entendu, il y avait la barrière. Et là, on enlève la barrière. Et bien entendu, si la substance qu'on lui a injectée est une substance à risque d'abus, comme on dit, eh bien, bien évidemment, il va revenir beaucoup plus souvent dans ce compartiment où il a reçu la drogue que dans l'autre compartiment. Voilà un test très simple pour savoir si une substance est à risque d'abus ou pas. Diapositive suivante. Alors, je suis désolé parce que les personnes, au fond, ne doivent pas voir grand-chose, mais ça ne fait rien, je vais quand même vous expliquer. J'ai essayé, malheureusement, de mettre tout ensemble parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui caractérise toutes les drogues, je dis bien toutes les drogues, qu'elles soient extrêmement dangereuses, entre guillemets, ou moins dangereuses, c'est qu'elles activent ce système de récompense. Et par conséquent, si elles activent le système de récompense, ça veut dire qu'elles doivent être capables de déclencher une libération de dopamine dans le noyau accumbens. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, vous voyez ici, alors, ceux qui sont au fond n'ont qu'à voir simplement la trace ici de la flèche optique. Et vous voyez que ici, par rapport à la ligne de base qui se trouve ici, eh bien, l'héroïne est capable d'augmenter très considérablement la libération donc, de dopamine dans le noyau accumbens. C'est vrai pour le tétrahydrocannabinol. Qu'est-ce que c'est que le tétrahydrocannabinol? C'est le cannabis, c'est la substance qui se trouve, la substance active qui se trouve dans le cannabis. Mais vous voyez que ça le fait moins quand même, hein. Pour être honnête, ça le fait quand même très nettement moins qu'avec l'héroïne, mais tout de même, il y a une libération de dopamine ici dans l'Oenoé combinse. C'est vrai, bien entendu, pour la nicotine. La nicotine, très nettement, augmente la libération de dopamine ici dans l'Oenoé combinse. Et bien sûr, c'est vrai pour la cocaïne, le problème là est un peu différent. Et puis, je n'ai pas mis d'alcool, mais si j'avais mis d'alcool, ben, on obtiendrait exactement la même chose. Et du reste, l'alcool, je vais l'illustrer maintenant, diapositive suivante. L'alcool, ben, c'est très facile. Vous voyez qu'ici, vous avez trois lignées de souris. Ces souris, ici, sont les souris C57, DBA et BALB. Et alors, finalement, quand on regarde dans leur noyau accumbens, on s'aperçoit que celles qui consomment naturellement ces trois lignées différentes, hein, trois séries de souris différentes, eh bien, on s'aperçoit que celles qui consomment le plus facilement de l'alcool, eh bien, comme par hasard, c'est celle qui contient le moins de dopamine dans son noyau accumbens. C'est-à-dire que par conséquent, pour compenser ce manque de dopamine, bah, évidemment, elle va consommer plus d'alcool. Alors, on peut confirmer ça très joliment. Vous savez que dans la maladie de Parkinson, par exemple, où il y a une destruction des neurones dopaminergiques, pas ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'autres, eh bien, on peut donner ce qu'on appelle de la L-DOPA, qui est un précurseur de la dopamine. Puis on lui associe ici une autre substance, mais peu importe. Évidemment, quand on injecte de la dopamine à cette souris, à la C57, eh bien, vous voyez que par rapport à l'injection d'eau, eh bien, la préférence pour l'éthanol va diminuer. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'on a remplacé la dopamine, on lui a donné de la dopamine. Donc on l'a remis finalement au niveau des autres lignées de souris, c'est-à-dire des BA et BALB. Diapositive suivante. Alors celle-là, elle vous paraît très compliquée, mais vous allez voir qu'elle n'est pas si compliquée que ça, et je pense qu'elle a, me semble-t-il, un certain mérite, c'est qu'elle donne tout en même temps. Elle tente, en tous les cas, d'expliquer tout en même temps. Vous voyez, ici, vous avez ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la fameuse voie hédonique qu'on appelle voie dopaminergique mésolimbique. Ici, j'ai l'aire tegmentale ventrale. Ici, j'ai le noyau accumbens. Je vous rappelle que c'est dans le noyau accumbens que la dopamine est libérée et qu'elle va donner donc toutes les réponses dont j'ai parlé tout à l'heure, et en particulier les réponses hédoniques, le plaisir. Donc vous voyez que toutes les substances ici qui vont avoir tendance à donner du plaisir sont plutôt situées ici dans l'aire tegmentale ventrale. C'est-à-dire qu'elles vont exciter ici le neurone dopaminergique de telle manière qu'effectivement il libère le plus possible de dopamine. Et au contraire, les substances de contraction contre action dont je parlais tout à l'heure, en particulier la cholécystokinine dont j'ai déjà parlé et la dynorphine qui est également une substance de contraction, se trouve au contraire dans le noyau accumbens et elles vont avoir tendance, elles, à faire diminuer, bien sûr, la dopamine. Alors, si je prends, par exemple, les opioïdes, eh bien, les opioïdes agissent à ce niveau-là, c'est-à-dire que, de manière un peu indirecte, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez qu'ils agissent en activant ici, en stimulant un récepteur, qui est le récepteur mu, on va le voir tout de suite après, et puis par une voie indirecte qui implique un neurone GABAergique, eh bien, elles activent la voie dopaminergique, elles font sécréter de la dopamine, elles donnent du plaisir. L'alcool agit aussi bien à ce niveau-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, qu'au niveau ici de l'interneurone GABAergique, en activant ici le récepteur GABA. Et puis, vous voyez qu'ici, il existe un autorécepteur, comme on dit, qui est un autorécepteur négatif, D2 ici. Et cet autorécepteur, ici, quand il est stimulé, eh bien, il a tendance, effectivement, à empêcher la stimulation de la voie dopaminergique. Et donc, on peut, effectivement, étudier tous ces phénomènes, soit en utilisant les fameuses souris transgéniques dont je parlais tout à l'heure, soit tout simplement en regardant, bien entendu, la libération de dopamine dans le noyau accumbens, soit par injection de substances à ce niveau-là, soit par injection de substances à ce niveau-là. Alors, voyons par exemple, est-ce que c'est vraiment le récepteur opioïde mu qui est impliqué dans la dépendance à l'héroïne ? Et ensuite, est-ce que le récepteur D2 a bien une importance dans la dépendance également à l'héroïne, par exemple ? Voyons-le, diapositive suivante. Très simplement, je ne vous donne pas tout le détail, c'est l'expérience qu'on a fait avec le laboratoire de Brigitte Kiefer à Strasbourg, là encore en créant des souris, disons dites transgéniques, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a plus le gène qui code pour le récepteur opioïde mu, a été délété. Il n'y a plus de gène. Plus de gène, plus de récepteur. Plus de récepteur, plus de cible, donc la morphine ne peut plus agir, les enképhéines non plus, le reste. Eh bien, regardez ce qui se passe. La morphine ne donne plus d'effet de récompense. Il n'y a plus d'effet de récompense. Donc, dans les tests qui vont donner l'effet de récompense, eh bien, la réponse sera négative. Diapositive suivante. Et bien entendu, on va retrouver strictement la même chose avec des souris dans lesquelles on a fait une délétion du gène qui code pour les récepteurs D2. Vous vous souvenez, je vous ai dit, le récepteur D2, lui aussi est impliqué, c'est un récepteur dopaminergique de type D2. Eh bien, ce récepteur de type D2, si on l'enlève, eh bien, vous voyez, regardez la différence, ici, ce sont les témoins. Ça, c'est le fameux test de préférence de place. Vous voyez que la souris a été habituée, dans ce test de préférence de place, à deux compartiments. Elle a été habituée à recevoir de la morphine, et évidemment, elle préfère très nettement ce compartiment. Elle y va beaucoup plus souvent. Et bien, quand on n'a plus de récepteur D2, elle n'y va plus du tout. Elle fait comme elle va aussi bien dans l'un que dans l'autre, tout simplement parce que par le biais, donc assez complexe, il faut bien le dire, des relais successifs, et bien, la voie dopaminergique n'est plus activée. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai remis celui-là, mais c'est probablement pour vous parler des contractions, mais même sûrement. Donc, je dis toujours contraction, contre-action. On va étudier maintenant que fait la cholécystokinine et que fait la dynorphine. Bien entendu, ça va être des effets inverses. Vous l'aviez deviné, mais je vais vous le montrer maintenant. Diapositive suivante. Alors, cette diapositive peut paraître compliquée. En fait, elle ne l'est pas vraiment. Vous voyez qu'ici, j'ai pris ce qu'on appelle un agoniste, disons de la dynorphine pour simplifier. J'ai pris de la dynorphine et je l'ai injecté ici dans le noyau accumbens. Et je dose ici la dopamine. Et bien, vous voyez que par rapport à la ligne de base ici, bien évidemment, immédiatement, dès que j'ai injecté de la dynorphine, hein, ne faites pas attention, c'est un dérivé de la dynorphine qui est du reste pas peptidique, mais peu importe. Disons que c'est de la dynorphine, on le ferait avec la dynorphine, ça donnerait exactement la même chose. Et bien, au lieu d'avoir une augmentation de dopamine, j'ai une diminution de dopamine. Et donc, j'ai un effet anhédonique contre l'hédonique, anxiogène. Maintenant, évidemment, je peux le prouver, et je peux prouver surtout que ce système marche en permanence. Comment ? En utilisant un antagoniste. Qu'est-ce que c'est qu'un antagoniste ? C'est simplement une substance qui va se placer dans le récepteur et qui va bloquer le récepteur. Il n'a aucun effet. Cette substance, en principe, n'a aucun effet sur le récepteur. Simplement, elle bouche le trou. Elle bouche le trou, mais elle bouche le trou pour qui ? Pour les substances endogènes, bien entendu. Et cette substance endogène, c'est la fameuse dynorphine dont je parlais tout à l'heure. Mais la dynorphine, elle n'a plus accès. Comme elle n'a plus accès, bah évidemment, elle ne baisse plus la dynamine. Et comme elle ne baisse plus la dynamine, bah la dynamine, elle augmente naturellement, puisqu'effectivement, il n'y a plus de contre-action par la dynorphine. Alors, je ne reprends pas les expériences avec cette substance qui s'appelle le DAGO, qui est comme la morphine, parce qu'évidemment, je vais vous dire exactement la même chose, mais en sens inverse. Et du reste, regardez, vous avez ici une image miroir des deux types de substances. Ici, vous avez les substances hédoniques, ici, vous avez les substances que j'appellerais contre-hédoniques. Et vous voyez qu'ici, vous avez exactement les effets inverses. Ils sont croisés ici, comme ça, donc inverse ici, inverse ici. Diapositive suivante. Donc, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, on pense, beaucoup de gens maintenant pensent de plus en plus que dans la vulnérabilité à la prise de drogue, il y a très probablement un dysfonctionnement de cette voie hédonique et de sa contre-voie hédonique. Et il est vrai qu'on rencontre très souvent ce qu'on appelle une comorbidité dans la vulnérabilité aux drogues. C'est-à-dire le fait que très souvent, les gens qui sont drogués ont des problèmes psychologiques, au moins si ce n'est psychiatrique, c'est-à-dire souvent des états anxieux, souvent des états de dépression, voire même des états schizophréniques. Et par conséquent, tout ceci, évidemment, les entraîne à aller chercher une sorte d'automédication par la consommation de drogue. C'est pour ça qu'on ne peut pas détacher un drogué d'une drogue vraiment intense, d'une drogue dite dure. On parlera tout à l'heure des drogues dures et des drogues moins dures, mais disons des drogues dures, on ne peut pas le détacher réellement de sa drogue sans qu'il y ait un accompagnement psychothérapeutique. Il ne faut pas croire qu'un simple traitement avec la méthadone, par exemple, dont je dirai un mot tout à l'heure, ou la buprénorphine, est capable d'agir seul. C'est rare. Il y a 80% d'échecs, 80-85% d'échecs. Alors qu'avec un traitement psychothérapeutique, on peut dire qu'on sort beaucoup d'héroïnomanes de leur toxicomanie. Donc, bien sûr, c'est dû au fait que vous avez ici ces deux systèmes qui sont en équilibre. Et s'il y a un déséquilibre dans un des deux systèmes, eh bien entendu, vous avez d'abord probablement un certain nombre d'effets comportementaux. Et ces effets comportementaux entraînent vers la consommation de drogue. Diapositive suivante, merci. Alors, on peut effectivement essayer d'explorer ce système encéphalinergique, comme on dit, système opioïdergique interne, et voir si effectivement, dans certains cas, il est perturbé. Comment peut-on faire ça? Bien, vous vous souvenez, je vous ai dit à un moment, ces encéphalines, ces peptides opioïdes, ont un temps de vie très court parce qu'ils sont mangés, détruits en substances inactives par ces fameuses enzymes gloutons qui ont des noms un peu barbares, NEP et APN, mais peu importe. Alors, Valérie Danger, dans le laboratoire, a fait une expérience assez jolie et tout à fait convaincante, qui est la suivante. Elle a regardé, toujours par cette fameuse méthode de microdialyse, dans le noyau à Combins, deux rats qui sont, comme on dit, freely moving, c'est-à-dire qui se promènent à l'intérieur de la cage. Elle a dosé ici, par rapport à un témoin, pendant un temps très long, vous voyez, pendant 5 heures, la quantité d'encéphaline, donc d'opioïdes endogènes, qui est sécrétée naturellement, cette fois-ci, mais protégée, ce qui permet évidemment de savoir si effectivement il y en a beaucoup ou pas. Et pour ça, elle a utilisé cette substance appelée RB101, peu importe, qui est ce qu'on appelle un inhibiteur mixte, qui est capable de complètement inhiber les enzymes de dégradation, d'inactivation des encéphalines. Dans ce cas-là, bien évidemment, et de manière du reste parallèle aux variations dans la journée du taux naturel de sécrétion des encéphalines, il y a évidemment une augmentation de ce taux. On va donc pouvoir utiliser ce RB101 pour étudier ce phénomène de libération d'encéphaline, donc d'opioïdes endogènes, et voir s'il y a des perturbations dans certaines affections. La diapositive suivante, que je vais essayer de vous expliquer doucement. Tiens, c'est marrant, ce n'était pas celle-là que je voulais mettre en premier, mais ça n'a pas d'importance. Je l'aime bien, je l'ai construite avec une certaine malice, mais vous en doutez un peu. Pour vous dire que ce qui est très grave, très certainement très grave, c'est l'incohérence émotionnelle durant la toute petite enfance. Les psychiatres connaissent bien ça. Qu'est-ce que c'est que cette incohérence? Quand la personnalité se construit, quand le cerveau se construit, donc la personnalité se construit, il y a un certain nombre d'images qui sont associées. Alors, par exemple, ici, vous voyez, j'ai mis une mer magnifique, très calme, là, pas de marée noire, impeccable, avec un sable blond magnifique, et puis, vous voyez, le visage heureux de la mer. Donc, l'enfant a associé ici cette image de bonheur avec cette plénitude et ce caractère décontracté de l'atmosphère. Et puis, le lendemain, il se retrouve exactement dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire que la mer est toujours aussi calme, le sable est toujours aussi blond, mais alors la tête de la mer a complètement changé, elle est absolument furieuse, et il ne comprend pas pourquoi. Il ne peut pas associer, il dit, mais comment je ne comprends pas ça, normalement, c'est associé avec cette image-là, puis d'un seul coup, je me retrouve avec ça. Il y a donc une sorte de traumatisme. Dans les images qu'il associe, il y a un traumatisme. Et ce traumatisme est très grave, car on sait très bien qu'il y a une vulnérabilité beaucoup plus grande à la consommation de drogue chez les enfants qui ont subi ce genre d'incohérence. Et plus encore chez les enfants qui ont subi des actes violents. Comme vous le savez, par exemple, l'inceste ou le viol chez les enfants produit 10 fois plus, je dis bien 10 fois plus de risques de consommation de drogue que pour un enfant élevé normalement. Donc, vous voyez à quel point c'est extrêmement important le viol de personnalité ou la malconstruction de la personnalité au cours de l'enfance. Diapositive suivante. Alors, c'est vrai qu'il existe aussi des facteurs génétiques. Donc ça, c'était des facteurs que j'appellerais émotionnels et environnementaux dans la prime enfance. Mais il y a aussi des facteurs génétiques. Et pendant très longtemps, on les a niés, il faut bien le dire, ces facteurs génétiques. Eh bien, ils existent. Et en fait, un certain nombre d'alcoologistes savaient ça depuis longtemps. Ils savaient qu'il y avait des familles à risque de consommation abusive d'alcool. Et ceci a été bien démontré depuis, et des analyses génétiques ont montré qu'un certain nombre de locus étaient effectivement présents dans des familles d'alcooliques. Mais ça, c'est des expériences qui ont été faites extrêmement récemment et que j'ai extraites de ce qu'on appelle NIDA Note. NIDA, c'est National Institute of Drug Abuse aux États-Unis, qui fait un très gros travail et qui a fait un travail ici sur un nombre, je crois que c'est près de 1000 jumeaux qui sont soit des vrais jumeaux, soit des faux jumeaux. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre quelle est l'expérience, qui est finalement assez simple. Si vous regardez la consommation de cocaïne, ici, c'est un C, ici, c'est un M, c'est donc la marijuana. Eh bien, si vous regardez les vrais jumeaux, eh bien, il y a 54 fois, mettons sur 100 en pourcentage, il y a 54% de jumeaux qui consomment tous les deux de la cocaïne et 42%, ça ne se voit pas bien, qui consomment de la marijuana. Quand on regarde les faux jumeaux, c'est déjà nettement moins. Vous voyez qu'il y en a déjà nettement moins, ça veut dire qu'effectivement, il y a bien probablement une intervention génétique dans le risque de consommation. Mais alors, où c'est extrêmement vrai, je dirais, et impressionnant, c'est quand on passe à l'abus et la dépendance, c'est pas peine que je répète ce que je viens de dire, vous voyez tout de suite qu'effectivement, chez les vrais jumeaux, eh bien, le pairing continue, l'appariement continue, alors qu'il est complètement absent chez les faux jumeaux, et bien entendu, dans le cas de dépendance, il est inexistant dans le cas de la marijuana. Voilà, donc il existe bien une vulnérabilité génétique qui est c'est la malheureuse inégalité inhérente à notre pauvre condition humaine. Diapositive suivante. Alors, il s'agit là, cette fois-ci, j'ai dû faire une inversion tout à l'heure quand j'ai rangé mes diapos, je n'ai pas fait très attention, mais ça ne fait rien. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la dynorphine et puis j'avais oublié de vous parler de la cholécystokinine. Eh bien, je la remets, la cholécystokinine, donc je reviens un tout petit peu en arrière et je rappelle que la cholécystokinine est également anti-hédonique. Alors ça se voit très bien, parce que regardez, si ici, je regarde le taux de dopamine dans le noyau accumbens, toujours de ces freely moving rats, ça a toujours été fait du reste par Valérie Daugier dans le laboratoire, et vous voyez quand elle dose la dopamine, quand elle a injecté cette substance, peu importe, c'est, imaginez que c'est de la cholécystokinine, en fait c'est un dérivé de la cholécystokinine, vous voyez tout de suite, vous avez une baisse tout à fait considérable de la dopamine après injection directement dans la structure, directement dans le noyau accumbens de cette cholécystokinine. Donc, très nettement, ces deux peptides, dynorphine et cholécystokinine, sont anti-hédoniques ou anhédoniques, si vous préférez. Désolé pour ces inversions de diapos, mais ça va s'arranger tout de suite après, je crois. Donc, la vulnérabilité au risque toxicoménagène. Donc, tous les individus ne sont pas égaux devant la transition consommation-abus-dépendance. Et, comme je l'ai déjà dit, le recours permanent à la drogue reflèterait une difficulté, voire une impossibilité à mettre en œuvre une conduite ajustée aux situations rencontrées, conflictuelles ou non. Ceci entraînerait une dévalorisation, une anhédonie permanente, temporairement surmontée par la consommation de drogue. Et il y a donc des facteurs de risque qui sont génétiques, émotionnels et comorbidités, je vous l'ai déjà dit. On trouve très souvent associés des dépressions, des troubles obsessionnels, de l'anxiété généralisée chez les consommateurs dépendants à une drogue. Et j'aime bien, moi, cette expression qui a été donnée par Dominique Lecourt, qui est tout individu va s'inscrire dans la structure même de son cerveau par stabilisation de réseaux neuronaux particuliers, et c'est pour ça que j'avais mis Madame T, dont vous aviez vu que c'était Madame Thatcher, sur cette plage magnifique, l'histoire singulière qui est la sienne, affective, sociale et culturelle. Et finalement, qu'est-ce qui est le lien commun à la prise de drogue, et quand je dis la prise de drogue, c'est la dépendance aux drogues, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, c'est évidemment la perte de l'estime de soi que les psychiatres connaissent bien et qui entraîne effectivement plus facilement à la toxicomanie. Diapositive suivante. Alors, vous voyez, là maintenant, je suis revenu pratiquement sur le bon rythme, si je puis dire. Voilà la fameuse expérience dont je voulais vous parler tout à l'heure et qui montre l'importance des systèmes internes et leurs troubles potentiels. Quand je dis les systèmes internes, c'est les systèmes hédoniques, les systèmes de plaisir, qui sont donc dus à cette activation de cette voie opioïde interne, de morphine interne. Comment ça fonctionne ? Ces expériences qui ont été faites, là encore, par Valérie Daugé. Là encore, par microdialyse, elle a dosé, cette fois-ci, non plus la dopamine, mais elle a dosé la méthamphétamine, donc cette morphine interne, dans le noyau à combins, et elle a pris deux populations de rats, des rats qui avaient été stressés de manière chronique et de manière douce. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment, c'est très long, c'est une expérience qui est difficile et qui est très longue, mais qui est bien connue des gens qui font de la pharmacologie. Et puis, elle a ensuite fait ce qu'on appelle une interaction sociale. C'est-à-dire qu'elle a pris les deux populations rats, évidemment séparées, et puis elle les a mis en présence d'un congénère. Alors, généralement, quand vous mettez un rongeur en présence d'un congénère, la première chose qu'il fait, c'est qu'il a une sensation de stress quand même. Il se demande ce qui arrive. Et évidemment, dans la population normale, ce qu'on voit, la population normale, c'est les carrés ici, eh bien, on voit très nettement ici, vous voyez, une augmentation de la méthamphétamine, qui est bien sûr sécrétée dans le cerveau de cet animal, simplement parce qu'il est stressé et que la réponse au stress, c'est tout de suite de sécréter les amphétamines. Qu'est-ce qui se passe avec cet animal qui, lui, a été stressé ? L'autre, il était non stressé. Celui-là était stressé. Eh bien, il était stressé, ça veut dire que quand on le met en présence du congénère, il est plus capable de libérer les amphétamines, vous voyez ? Il a même un petit défaut, si je puis dire, une petite diminution. Mais admettons même qu'il n'y ait pas de diminution, il est plus capable de sécréter les amphétamines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il est comme dans un état dépressif. C'est-à-dire que mis devant une situation dans laquelle il avait à réagir, ben, il ne peut plus réagir. C'est-à-dire que son système opioïdergique semble tari, si je puis dire. Et donc, il a du mal à surmonter cette épreuve. Et dans la dépression, c'est bien ça qu'on rencontre. Diapositive suivante. Alors, un des phénomènes les plus curieux et les plus difficiles à comprendre, il faut bien le dire, parce qu'on ne comprend toujours pas très bien comment ça fonctionne, c'est le fait que une fois qu'on a pris une substance, on y revient. Enfin, quand on est devenu dépendant, bien entendu, on y revient. Mais pourquoi, grand Dieu, revient-on ? Alors, bien sûr, il y a le fait que quand on abandonne la substance, il y a un effet, vous le savez, de stress qu'on appelle le sevrage. Le sevrage est plus ou moins douloureux. Il peut être très douloureux chez l'alcoolique, il est très douloureux chez les réunomanes. Mais il y a d'autres substances qui ne sont pas très dramatiques sur le plan du sevrage. Eh bien, malgré ça, les gens reviennent à cette consommation. Pourquoi ? Eh bien, vous voyez, ici, il y a des expériences qui ont été faites, mais elles ont été faites il y a 10 ans, mais elles ont été refaites souvent depuis par l'équipe du professeur Schultz. Et voilà le type d'expérience qu'il a fait. Il a pris des singes et il a implanté ici une électrode dans cette voie hédonique du singe. Et puis, il a regardé ce que faisait le singe et surtout comment un certain nombre de mouvements du singe déclenchaient ou pas ici l'activation de ce système dopaminergique. Eh bien, ici, vous voyez, il y a une porte. Imaginez une porte ici, puis vous avez le singe qui se trouve ici. Et là, on est en train de regarder son système de dopaminergique qui est en train de marcher, là, de fonctionner. Alors, il fonctionne normalement, quoi, hein, sans excès. Et puis, il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, il voit la nourriture derrière. Alors, il s'approche de la nourriture et immédiatement, il y a une sorte de réflexe pavlovien neurologique qui fait qu'il y a une augmentation, il y a ce qu'on appelle en anglais un firing, hein, je ne sais plus comment ça se traduit en français, une décharge, pardon, des décharges dopaminergiques. Donc, son système dopaminergique est activé et il y a un très grand nombre de décharges. Alors, bon, on l'habitue comme ça, le singe. Et puis, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit d'une chose tout à fait curieuse. C'est que avant même qu'il ouvre la porte et qu'il voit la nourriture, vous le voyez ici, eh ben, il commence à déclencher ici son système dopaminergique, avant même qu'il ait ouvert la porte. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, mis dans des circonstances, la personne qui est « droguée », entre guillemets, qui est devenue dépendante d'une drogue, mis dans des circonstances dans lesquelles il a eu sa première consommation, surtout quand ça a été successif, et qu'il est devenu dépendant, et on le sait bien, du reste, eh bien, il a une sorte de... Alors, bien entendu, quand il s'est mis dans cette situation, il a eu ce sentiment de plaisir donné par la dopamine. Donc, en fait, il appréhende, si je puis dire, il est dans cette situation... Et il sait qu'il doit attendre cette récompense. Et si elle ne vient pas, il est dans un état absolument terrifiant pour lui, d'extrême douleur du reste. Et donc, évidemment, il va tendre à prendre le produit pour surmonter cet effet qui lui manque, qui est réellement le manque du reste. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, on dit très souvent que ceci est lié à une hyperactivité dont on ne sait du reste pas très bien quelles sont les bases moléculaires, hypersensibilité plus exactement des systèmes en général et des récepteurs en particulier. Alors, je ne vais pas m'étendre très longtemps parce que c'est assez compliqué, mais simplement pour vous montrer ceci. Ici, il s'agit de rats qui sont dépendants à la morphine parce qu'ils ont été traités de manière chronique. Et puis, on arrête un petit peu le traitement, puis subitement, on reprend le traitement. Alors, vous voyez ce qui se passe ici. Bon, on compte l'activité locomotrice de l'animal, et on sait bien que les morphiniques ont tendance à augmenter l'activité locomotrice. Et à chaque fois, on donne la même dose. Je dis bien la même dose. Mais regardez ce qui se passe. La première fois, 200 coups. Hein, la deuxième fois, 400 coups. Puis la troisième fois, 500 coups. Ça veut dire qu'il y a eu une hypersensibilisation du système. C'est-à-dire que le système est devenu hypersensible. À chaque fois qu'on en donne, pan, la réponse est encore plus forte que la réponse précédente. Et ceci, évidemment, contribue également à la dépendance et aux besoins extrêmes que représente la dépendance à ces drogues. Alors, bon, je vais passer ça parce que c'est extrêmement compliqué. Actuellement, on peut dire que dans le monde, on travaille beaucoup dans ce domaine particulier qui est de savoir pourquoi il y a un effet de rémanence aussi grand. Pourquoi y a-t-il, non pas tellement les phénomènes de rechute, mais pourquoi s'arrête-t-on de fumer et puis dès qu'on reprend une cigarette, eh ben, on se remet à fumer. Pourquoi, effectivement, quand malheureusement, pour différentes circonstances, on est devenu alcoolique et qu'on est sevré, eh bien, si jamais on reprend de l'alcool, eh bien, on a un risque absolument énorme de redevenir à nouveau dépendant. On cherche à savoir quel est ce souvenir qu'on a emmagasiné dans le cerveau et qui fait qu'effectivement, on ne rééchappe pas, si je puis dire, ou en tous les cas que le nombre de rechutes, la vulnérabilité à la rechute est plus grande. Et on pense qu'il y a effectivement, à l'intérieur des neurones et des systèmes de neurones, du réseau de neurones, des processus qui sont très longs à s'effacer et qui sont peut-être dus à des problèmes de phosphorylation. Mais honnêtement, personne n'en sait rien. Alors, je vais venir maintenant très rapidement pour finir. Je ne sais pas combien il me reste de temps, un quart d'heure, même pas. Oh là là. Donc, à quelque chose qui a fait bouger un peu dans les médias, si je puis dire. Le secrétariat d'État à la Santé m'avait demandé, avec des collègues, bien sûr, d'examiner le problème de dangerosité des drogues. Et en particulier, de faire une sorte de comparaison entre des drogues dites licites et dites illicites. Alors, vous savez que le credo habituel, c'est tout ce qui est illicite, finalement, c'est pas dangereux, et à la limite, ça ne donne pas beaucoup de dépendance. Mais alors, ce qui est illicite, et là, vous voyez de la marijuana et de l'héroïne, alors là, c'est extrêmement dangereux et ça donne de la dépendance. Alors, nous n'avions absolument aucun état d'âme au départ. Il y avait les neurobiologistes, des cliniciens, enfin, toute une série de spécialistes. Enfin, pour ceux qui ont consulté le livre, ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce travail. Et on a fait, et c'est là, je pense, où il y a eu une surprise, c'est qu'on a fait, pour la première fois, je crois, une analyse comparative et non pas une analyse produit par produit. En général, les analyses se font produit par produit. Et là, il y en a plein, des analyses comme ça. Mais là, on a regardé avec des critères très précis ce que faisait la substance X par rapport à la substance Y, puis Y par rapport à Z, etc. Diapositive suivante. Donc, la dangerosité comparative, les substances, vous les voyez, elles sont ici. Et ce qu'on a regardé, c'est, bien sûr, la modification des états de conscience, les propriétés, la neurotoxicité, la toxicité générale, la dangerosité interindividuelle, c'est-à-dire est-ce que vis-à-vis de la personne qui est en face de moi, je vais devenir dangereux quand j'ai abusé et même quand je suis devenu dépendant de la substance. Et puis, bien sûr, les propriétés addictives sont-elles identiques pour toutes les substances. Et heureusement, un certain nombre de journalistes ont bien voulu reprendre ceci, qui n'a pas toujours été bien repris. La conclusion, c'est que de toute façon, même s'il y a effectivement une gradation, toutes ces substances ne sont pas complètement dépourvues de danger, toutes sont hédoniques, je vous l'ai montré précédemment, et bien sûr, toutes activent le système dopaminergique, je vous l'ai montré, et bien entendu, toutes sont susceptibles d'entraîner des effets plus ou moins, tout de même, accentués de dépendance physique. Et quand je dis plus ou moins, il y a vraiment des différences tout à fait grandes entre les différents types de substances. Diapositive suivante, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc le tableau, vous le connaissez, bien sûr, si. Alors, ce qui a frappé, c'est que quand on regarde l'héroïne et qu'on regarde l'alcool, alors évidemment, il y a eu une surprise, quoi, parce que la suractivation dopaminergique, bah, évidemment, il y en a un peu plus pour l'héroïne que pour l'alcool, mais on s'aperçoit... Non, c'est pas grave. On s'aperçoit que quand on passe, par exemple, à la dépendance physique, bah, elle est très forte, tout le monde le sait, mais personne ne le disait vraiment. La dépendance psychique, c'est exactement la même chose. La neurotoxicité, alors, elle est très forte dans le cas de l'alcool, alors que contrairement à ce qu'on croit, elle est faible dans le cas de l'héroïne. La preuve, c'est que vous avez des gens qui sont traités par une substance qui est un dérivé de la morphine, qui est la méthadone dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est un substitut de la morphine pour essayer de détacher le patient de son héroïne. On lui donne un substitut de la morphine. Eh bien, il y a des gens qui sont traités depuis 30 ans hein, aux États-Unis avec ce type de substance et qui n'ont aucune dégradation dans leur cerveau. Alors que je vais vous montrer un cerveau tout à l'heure d'alcoolique, et bon, tout le monde sait ça. Bon, je ne vais pas continuer. Je vais continuer en disant que la dangerosité sociale, c'est vrai qu'elle est très forte pour l'héroïne, mais elle est également forte pour l'alcool. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Et elle est très forte dans le cas de l'héroïne, non pas parce que l'héroïnomane est dangereux par lui-même, mais c'est parce que la recherche compulsive de son produit va l'amener évidemment à des rixes, à éventuellement à casser quelque chose, une vitrine pour se procurer de l'argent, enfin bref, devenir socialement dangereux, pas à cause du produit lui-même, mais à cause de la recherche du produit. Ce qui n'est pas le cas de l'alcool. Dans le cas de l'alcool, la dangerosité est due au produit qui est tellement désinhibiteur qu'effectivement, il finit par produire ces effets de violence qu'on connaît bien. Diapositive suivante. Alors, un mot simplement, parce que je pense que vous me l'auriez posé, c'est le MDMA, donc l'ecstasy. Alors, c'est vrai que l'ecstasy a une consommation de plus en plus importante, en particulier dans les rêves parties, et souvent associée avec l'alcool, il faut bien le dire, qui probablement augmente encore un peu les risques. Alors, voici une expérience qui a été faite par Rick Hort, qui est un Américain, qu'on a fait venir avec Jean-Pierre Changeux du Resto Collège de France, et avec lequel on a beaucoup discuté de ces problèmes. Ici, il s'agit d'une expérience que je ne vais pas vous détailler sur le plan technique et qu'on appelle PET scan, hein, c'est-à-dire qu'on utilise une substance ici qui marque, qui se lie au transporteur de la sérotonine. Pourquoi ? Parce que le MDMA, donc l'ecstasy, a cette propriété qu'elle se lie, comme du reste pratiquement tous les psychostimulants, à un transporteur qui est, dans le cas de l'ecstasy, pardon, le transporteur de la sérotonine, et également aussi, du reste, le transporteur de la dopamine, alors que dans les autres psychostimulants, c'est surtout le transporteur de la dopamine sur lequel elle se lie, l'amphétamine, enfin, toutes ces substances-là. Et alors, quand on regarde ici la comparaison entre le contrôle, donc il s'agit de coupes de cerveau humain, et on le regarde par rapport à des coupes de cerveau qui se trouvent ici, chez un consommateur usuel et abusif d'ecstasy, eh bien on voit qu'évidemment, les images ici sont beaucoup plus claires. Ça veut dire que tout ce que vous voyez en rouge et même en blanc, c'est le marquage du transporteur par cette substance dont je ne donne pas la formule ici. Vous voyez qu'évidemment, il y a une différence. Le véritable problème maintenant, il est de savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on a détruit le neurone ou est-ce que ça veut dire qu'on a occupé simplement la terminaison et puis que, au bout d'un certain temps, la terminaison, soit elle va se régénérer, soit effectivement la substance va partir parce que le marquage n'est pas irréversible et que il n'y aura pas de risque à long terme. Pour l'instant, je suis incapable de répondre à cette substance et le séminaire qui a eu lieu il y a 6 mois au Collège de France ne nous a pas éclairé définitivement là-dessus. Ceci dit, le risque est trop grand. Le risque est grand. Parce que tout de même, si effectivement il y a une destruction lente, on peut imaginer qu'on peut trouver dans 10 ans ou dans 20 ans un certain nombre de patients qui pourraient avoir des désordres neurodégénératifs, c'est-à-dire des pertes neuronales, ce qui serait évidemment très grave. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a beaucoup de travail à faire. Il existe actuellement, je l'ai dit du reste à Ricord, il est difficile de comprendre pourquoi aux États-Unis on utilise l'ecstasy depuis 20 ans, on ne peut pas prendre des patients qui ont utilisé l'ecstasy depuis 20 ans pour regarder par des quantités, voire post-mortem, parce que malheureusement nous sommes tous mortels, dans leur cerveau s'ils ont réellement une perte neuronale. Mais je ne sais pas, il y a une espèce de difficulté à faire ces expériences qui pourtant seraient, à mon avis, totalement définitives, peut-être pas définitives, mais nous renseigneraient de manière très précise sur le risque. Diapositive suivante. Oui, je ne vais pas revenir sur la dangerosité de l'alcool. On dira que j'en veux à l'alcool, alors que moi, j'aime beaucoup le bon vin. J'essaye de ne pas en abuser, c'est tout. Simplement, vous voyez que les ventricules cérébraux ici, évidemment, l'image, il ne faut pas comparer ces deux images-là, parce que ce n'est pas le même plan. Mais par contre, effectivement, pour quelqu'un qui connaît bien la neuroanatomie, il y a un élargissement des ventricules cérébraux qui est tout à fait net chez les alcooliques. Et vous savez qu'en France, il y a 2 millions d'alcooliques, c'est-à-dire 2 millions de personnes qui sont réellement alcooliques, dépendantes de l'alcool. Et quand elles vont chez un... chez une personne, un radiologue, pardon, je ne trouve pas le terme, eh bien le radiologue, lui, il suffit qu'il fasse une radio du crâne, il a tout de suite vu, enfin quand il a une IRM, il voit tout de suite, effectivement, s'il a affaire à un alcoolique, il n'a même pas besoin de l'interroger, il le voit immédiatement. Diapositive suivante. Alors, il faut se méfier des galopes, il faut se méfier des interrogatoires. Voilà, par exemple, un interrogatoire qui est pourtant fait par l'OFDT en 1999 et qui, était sûrement plein de bonnes intentions. La question, j'ai oublié ici, la question c'était, si vous aviez un seul produit à prendre, quel est celui qui vous ferait le plus peur? Alors évidemment, si vous regardez ça, l'héroïne, alors là, c'est terrible. Hein. L'ecstasy, terrible. La cocaïne, terrible. Le crack, entre nous, soit dit, moi j'aurais mis le crack là-haut, hein. Parce que le crack, c'est vraiment redoutable. Et bon, je ne vais pas faire toute la liste. Mais alors, en bas, vous trouvez le tabac et l'alcool tout petit, petit, petit. Oui, mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans le même document, c'est pour ça que c'est sûrement plein de bonnes intentions, dans le même document, vous voyez, toutefois, une enquête menée en 1993 par le CEF, qui est un autre FDT, je puis dire, montre que lorsque ces produits sont proposés explicitement, l'accord sur le fait que l'alcool et le tabac sont des drogues est assez massif, 84%, 77%. Donc vous voyez qu'il faut toujours se méfier des interrogatoires, mais il faut aussi se méfier du fait que le lobby alcoolier utilise assez facilement et assez volontiers ce genre d'interrogatoire pour dire que finalement l'alcool c'est pas dangereux quoi. Diapositive suivante. Alors ça a l'air d'être même tellement pas dangereux que récemment, et je dois dire que j'étais pas très content et je l'ai fait savoir, on a encore élargi un petit peu, on a encore un peu écorné la loi E20. Vous savez que la loi E20 avait interdit qu'on vende des boissons alcoolisées dans les stades, ce qui me paraissait quand même être une bonne idée. Et puis on l'avait déjà écorné un peu, alors là on l'a écorné encore un peu plus, si bien que maintenant, pratiquement dans les stades, si vous allez dans les stades en province, en particulier sur les petits stades, vous verrez que les buvettes, elles ne délivrent pas que du Coca-Cola. Hein. Et donc, j'ai beaucoup aimé un club, c'est les joueurs jouent, les supporters voient. Le contraire serait catastrophique, c'est vrai. Parfaitement juste. Diapositive suivante. Bon, on va passer celle-là. Alors, le cannabis. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le cannabis. Il se trouve qu'on travaille aussi sur le cannabis depuis un certain temps et on a travaillé récemment, là encore, avec des souris dites transgéniques, c'est-à-dire qui n'ont plus de récepteur CB1, qui est le récepteur aux cannabinoïdes. Hein. Et une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que quand on enlève ce récepteur, ce sont effectivement les souris qui sont ici, eh bien, on s'aperçoit qu'elles semblent plus, vulnérables à l'auto-administration de morphine. C'est-à-dire qu'elles s'auto-administrent plus de morphine quand on a enlevé le récepteur. Donc on se dit, aïe, il y a quand même un petit problème. Il y a effectivement une relation entre les deux systèmes. Alors la relation entre les deux systèmes, on la connaissait, mais c'est vrai que tout de suite, ça a fait penser, et je dis que c'est une expérience qui a été faite en collaboration avec Gilbert Vassar en Belgique et dans notre laboratoire. Vous voyez que je ne suis pas partisan. Hein. Donc, j'ai constaté ça. Hein. La science, c'est la science. On constate ça, on se dit, mince, c'est quand même un peu inquiétant ce truc-là, parce que est-ce que ça veut dire qu'il y a la dérive, la fameuse gateway, comme on dit. Alors, allons voir ce qui se passe, justement. Ce sont des expériences, là encore, qui ont été faites par Olga Valverde dans le laboratoire. Voilà ce qu'on on regarde. D'abord, on essaye de voir s'il y a réellement une relation entre le THC, donc le cannabinoïde, la marijuana, et la morphine. Enfin, les morphines internes, pardon. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est de regarder l'effet interne, l'effet physiologique, pas l'effet pharmacologique. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de doute. Hein. Vous voyez qu'ici, quand vous regardez le taux de ces fameux peptides opioïdes endogènes, eh bien, sous traitement au THC, c'est vrai qu'on a mis le paquet, là, 20 mg kilo, IP, il n'empêche que ça fait monter quand même un peu les amphétamines, puis alors ça les fait monter dans le noyau à Combins. Évidemment, on peut se dire, mince, je les fais monter dans le noyau à Combins, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe quand même pas grand-chose. D'abord, on savait que le THC ne donnait pas beaucoup d'effets de manque, de sevrage. L'effet de sevrage est faible. Il existe, mais il est relativement faible. Mais surtout, cette expérience que je ne vais pas détailler, qui est toujours l'expérience dans laquelle vous avez la préférence de place, vous voyez que par rapport aux salines, ici, au liquide, disons à l'eau, le THC, il a plutôt tendance à avoir un effet dysphorique, comme on dit, c'est l'inverse. Quand je mets la morphine, évidemment, à dose très faible, il y a un tout petit effet, mais j'ai fait exprès de la mettre à dose très faible, parce qu'ensuite, je vais l'associer avec le THC. Et puis, je vais regarder ce qui se passe. Et vous voyez que je n'augmente pas du tout. Et que par conséquent, il n'y a pas de facilitation à la prise de morphine, apparemment en tous les cas dans ce test-là, par le tétrahydrocannabinol, qui est le principe actif du cannabis. Diapositive suivante. Alors, tout de même, il faut voir que pendant très longtemps, on n'a pas administré de méthadone en France, pour différentes raisons. Qu'est-ce que c'est que la méthadone? Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est quand même une substance qui permet effectivement aux héroïnomanes d'essayer, de tenter de sortir de la toxicomanie dans des conditions, pas trop dures, qui ne provoquent pas trop de rechutes. Et on a commencé à administrer de la méthadone et puis de la buprénorphine parce qu'il n'y avait pas de centre méthadone suffisant en France, donc on a pris de la buprénorphine. Et évidemment, il y a eu une baisse considérable des décès par sida. Pourquoi ? Parce que la méthadone ne s'administre pas avec une seringue, mais par voie orale. Et évidemment, dans ce cas-là, on limite la transmission du virus du sida par la seringue. Et vous voyez ce qui s'est passé dans le même temps en Australie, où effectivement, c'est l'inverse. On n'a pas permis ici la méthadone et le nombre d'overdoses ici a augmenté de manière considérable et le nombre de morts également. Diapositive suivante. J'arrête, j'ai fini. Alors, il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement dans le monde parce que finalement, l'industrie pharmaceutique, qui n'est pas dépourvue d'intérêt, ce que je comprends du reste, s'est dit que finalement, le marché des composés qui pouvaient annihiler ou en tous les cas réduire les effets de dépendance était sûrement un marché intéressant. Et par exemple, Pierre Sokolov, en France, a montré qu'un antagoniste. C'est pas un antagoniste, c'est un agoniste. Un agoniste partiel, du récepteur dopaminergique D3 était capable de diminuer la prise de cocaïne. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est simplement pour vous montrer qu'actuellement, dans le monde entier, beaucoup de laboratoires, et pas seulement des laboratoires universitaires au sens large, mais des laboratoires industriels travaillent sur des substances qui, comme la méthadone, mais pas pour l'héroïne cette fois-ci, mais pour l'alcool en particulier, ou pour la cocaïne sont capables de diminuer ces effets de rechute. Et enfin, je pense que ça va être les dernières. Oui, nous, pour notre part, nous utilisons le fameux RB101 dont je vous parlais tout à l'heure. Alors évidemment, le RB101, comme il augmente la quantité d'encéphaline, bah évidemment, il baisse, bien entendu, la prise de drogue, ce qui est parfaitement normal. La positive suivante, je pense que c'est fini. Alors, il y a quelque chose qui est... Bon, on a parlé dans le monde, donc il faut bien que je vous en dise un mot. La cocaïne peut, effectivement, on peut l'empêcher de traverser la barrière sans cerveau, qu'on appelle hémato-encéphalique. Et dans ce cas-là, évidemment, si elle reste dans le sérum, elle ne risque pas d'affecter le cerveau. Et pour ça, il suffit de la fixer sur un anticorps que vous voyez ici. Et puis, alors, on va même encore plus loin parce qu'on prend ce qu'on appelle les anticorps catalytiques, c'est-à-dire des anticorps qui non seulement fixent la cocaïne, mais la coupent en petits morceaux. Alors là, il n'y a plus aucune chance qu'elle aille dans le cerveau. Bon, on peut discuter, mais je suppose que vous me poserez des questions, on peut discuter sur ces approches différentes. Voilà, je crois que j'ai fini. Voilà, je vous remercie beaucoup. Désolé d'avoir été un peu long.
Je vous remercie. Je vous demande de poser vos questions assez rapidement, si possible, en levant la main, afin que les appariteurs puissent vous voir et vous passer le micro. Il y en a une là. Là. Là, ça arrive.
Bonsoir. Là,
je crois que la personne. Je crois que c'est la personne. Bon, après. Je vous passerai après. Assez rapidement, si possible.
Bonjour chers confrères, je vous parle, je suis pharmacien également. J'ai voyagé beaucoup au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis. Je voulais vous parler de THC là. Par exemple, pour les gens en France qui sont atteints de glaucome, certains ophtalmologues leur conseillent le THC. En France, c'est interdit. Malheureusement, les Français, ils sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour avoir une ordonnance de THC ou de cannabis pour soulager l'hypertension intraoculaire qu'on appelle le glaucome. Pourquoi la législation est aussi sévère avec le cannabis en France ?
Pour une raison très simple et que je partage. Je pense qu'on ne peut pas utiliser un produit tant qu'il n'a pas été confronté au produit du même type, c'est-à-dire qu'il soigne la même maladie. Et de manière à démontrer qu'il est supérieur aux autres produits.
Mais par contre, aux États-Unis, il a été démontré.
Ben c'est parce que...
Et le FDA, FDA.
Mais oui, mais chaque pays... Mais vous êtes pharmacien, donc oui. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais chaque pays a son système d'évaluation. Nous avons le nôtre. Essayez de faire rentrer une substance qui sort de France sans que la FDA la regarde et l'analyse. Ben c'est la même chose en France. Oui, oui, non, mais je ne conteste pas le fait qu'il peut y avoir une efficacité. Mais on a dit la même chose pour l'analgésie. Non, je pense que la véritable application à laquelle je crois, c'est effectivement l'effet anti-émétique et l'effet de reprise d'appétit après des traitements très sévères qu'on a, par exemple, chez les malades atteints de sida ou chez les cancéreux. Là, je pense qu'effectivement, il y a une application potentielle pratiquement incontestable. Pour le reste, vous me permettrez de rester pour l'instant sceptique. Je ne suis pas seul, hein, les Anglais sont également très sceptiques.
Bonsoir. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer concernant les fondements éthiques et peut-être le sens des approches vaccinales des addictions ?
Ah, vous voyez, je m'y attendais. L'éthique d'abord. Vous savez, je pense que l'éthique, c'est que tout ce qui peut être bon pour l'homme est évidemment éthique. Or, on peut imaginer que vous soyez, par exemple, dans une famille à très grand risque de consommation de cocaïne. Par conséquent, il n'est pas complètement stupide de penser que si vous vaccinez l'enfant et qu'il est confronté une première fois avec la cocaïne, ben, il n'en reprendra plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas de plaisir, puisqu'effectivement, cette cocaïne ne parviendra pas jusqu'au cerveau. Ça, c'est une réponse directe chez l'enfant. Maintenant, chez le cocaïnomane, alors là, le problème est différent, parce que chez le cocaïnomane, il faut bien dire que le risque, c'est qu'il augmente sa consommation. C'est pour ça qu'à la limite, l'anticorps catalytique, c'est déjà mieux, parce que l'anticorps catalytique, il va détruire la cocaïne. Donc, s'il est en concentration suffisante, bah, évidemment, c'est pas la peine que le consommateur prenne plus de cocaïne, puisque de toute façon, la cocaïne va être détruite. Le problème, c'est que j'attends toujours qu'on me démontre véritablement l'efficacité de ces anticorps catalytiques. J'espère que ça répond à votre question.
On va prendre une dernière question.
Je voulais vous demander, premièrement, pourquoi est-ce que les neuroleptiques antidopaminergiques, quelle est leur action sur la dopamine ? Ils la font baisser en principe, donc ils risqueraient de donner une dépression, disons. Absolument. Et deuxième question...
Je réponds tout de suite à la première, car c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Personne, évidemment, ne se drogue, bien entendu, entre guillemets, avec des neuroleptiques. Et pour cause, puisqu'ils bloquent effectivement la transmission de dopaminergique. Donc effectivement, il n'y a pas de risque qu'on puisse se droguer avec des...
Mais est-ce qu'il y a le risque inverse ?
Non, il n'y a pas le risque inverse. Non, je dirais même qu'à la limite, par exemple, il serait sûrement très intéressant d'associer, je ne suis pas sûr que ça ait été fait, mais en tout cas, moi je sais qu'on voudrait bien le faire dans le labo, c'est associer un neuroleptique, un bloquant, avec, par exemple, du RB101, c'est-à-dire augmenter le taux d'encéphaline endogène et en même temps bloquer le système de dopaminergique. Mais pas n'importe quel système de dopaminergique. Hein. Enfin, ça va être un peu plus compliqué. Si on...
D'autre part, pour le sevrage au tabac, est-ce que, lorsqu'on met des patchs, est-ce que ça fait monter la dopamine ?
Ah, oui, sûrement. Pourquoi ça ne la ferait pas monter ? Il n'y a pas de raison, puisque le patch... Vous parlez de la nicotine, hein, là. Oui. Bah, normalement, si on en croit les résultats de mes collègues, la nicotine fait augmenter la libération de dopamine dans le noyau accumbens. Par conséquent, les patchs... Mais qu'est-ce que c'est qu'un patch de nicotine ? C'est la même chose, en gros, la même chose, hein, en gros, que la méthadone pour la morphine. C'est-à-dire que bah, là, c'est directement la nicotine. Dans le cas de la méthadone, c'est un dérivé de la morphine, mais c'est à peu près la même chose. C'est simplement pour diminuer petit à petit la prise de la fumée. Alors, honnêtement, ça marche pas. Terrible, hein, les patchs de nicotine. Ça marche un peu, il faut vraiment le vouloir, quoi, mais ça marche pas terrible. Alors, actuellement, il y a d'autres systèmes qui se mettent en route. Il y a en particulier des inhibiteurs de la monoamino-oxydase, hein, qui augmentent le taux de dopamine et qui semblent donner des résultats supérieurs. Et puis, il y a une autre substance qu'on appelle le bupropion, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui est utilisée aux États-Unis, du reste, et qui demande, je crois, son autorisation de mise sur le marché en France.
Merci. Thank you.